France Inter.
Vous goûtez comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Cher Poitevin, cher Poitevine, pique ta vine d'ailleurs, Vienne, viens dans la Vienne, à Pictier, à Poitiane, je vais y arriver. Si, la ville entourée de Montmorillon.
Ce macaron, il peut vous emmener partout.
C'est une vieille famille de Poitevine.
Oui, voilà, cette ville incroyable. Ah, du tourteau fromager.
Bon, c'est une spécialité locale, donc ce serait dommage de passer à côté.
Le chablis peut se déguster en salade ou sucré dans le célèbre tourteau fromager.
Voilà, le café des arts, le quick, la nicaline. Le futuroscope!
Non, ça c'est Jaune Éclan.
La séquestrée de Poitiers. Il peut y avoir un petit bistrot par là.
Je sais, mais voilà, le tap.
Salut Poitiers.
Oh, je l'ai dit.
Eh bien, salut Poitiers! Bonjour à toutes et tous! Waouh, quel accueil! Merci Poitiers! Comme on est heureux de faire partie du France Inter Tour à Poitiers, nous dressons le couvert au cœur du TAP Scène Nationale du Grand Poitiers, un auditorium franchement impressionnant, magnifique, à la fois chaleureux, contemporain. Et on va vous montrer ce que la capitale du Poitou a dans le ventre en matière de terroir, d'énergie culinaire et d'alimentation durable avec nos trois invités du jour, trois locaux de l'État. François Vaudéchamp, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef cuisinier, on parle beaucoup de Utopia, le restaurant que vous avez ouvert avec votre femme, Solène, on lui fait un petit coucou.
Exactement.
Dans le cœur historique de la ville, un restaurant très engagé, voire même radical. Radical, ça vient du mot racine et vous allez comprendre qu'il en cuisine et qu'il en utilise des racines. Vous mettez en avant des produits locaux de manière très exigeante, légumes, fromages, viande et volailles. Restaurant Utopia, vous nous rappelez l'adresse de ce restaurant, François ?
Le 31 rue du Marché Notre-Dame, juste en face des Cordeliers et du château des Ducs d'Aquitaine.
Et vous allez nous faire goûter des bouchées 100% Vienne, hein ?
Exactement.
On va se régaler en parlant de fromage, puisqu'il y a beaucoup de fromage à la table d'Utopia. J'ai la femme de la situation, Emmanuel Rapeau, bonjour !
Bonjour !
Vous êtes à la tête de la ferme du Marat,
oui,
à Chauvigny, dans la Vienne, et vous produisez des fromages de chèvre. Alors, fermier, au lait cru, vous êtes connu comme le loup blanc dans le coin, vous nous avez dressé un plateau de fromage absolument impressionnant. On va se régaler avec vous, cher Emmanuel. Merci beaucoup d'être là.
Avec plaisir.
Pas de cuisine, pas de vine, sans une touche de sucré. Bonjour Yann Bertrand.
Bonjour.
Dans la famille des macarons de France, je demande celui de...
Montmorillon.
Bravo. Votre maison familiale, Ranoum et Thivier, en a, on peut le dire, le quasi-monopole.
Cinquième génération. Oui.
Et cinquième génération, très belle entreprise familiale, comme on les aime dans le milieu de la culture et de la gastronomie, parce que vous avez également une entreprise qui est entreprise du patrimoine vivant. C'est dire si vous faites de belles choses. Vous êtes également tourné vers des chocolats engagés qu'on va déguster ensemble. Ça tombe bien, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Merci d'être là, cher Yann. Ils sont du voyage, ce sont mes chroniqueurs. Zazie Tavitian et Jérôme Gagnès. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors,
Je suis ravie d'être ici. Moi, je vais vous parler d'une spécialité qui n'est pas encore entrée dans le patrimoine culinaire poitevin, mais ça ne saurait tarder, peut-être après cette émission.
Ah ouais, j'en suis sûr, parce qu'alors c'est vraiment un coup de cœur incroyable. Jérôme.
On va déguster un joli pinot qui fait la queue de paon.
Joli pinot qui fait la queue de paon. Ça s'appelle une énigme que notre ami Jérôme va résoudre dans le courant de cette émission. Pour retrouver tous nos contenus, recettes, bonnes adresses, infos pratiques ainsi que tous nos podcasts, rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster. Allez, c'est parti, on croque le Poitou par tous les bouts et tous les goûts.
France Inter, François-Régis Gaudry, On va déguster.
En guise de mise en bouche, cher public, chers amis qui nous écoutez dans toute la France, on va déguster Poitiers et sa région, quelques petits coups de cœur comestibles. J'ai mis à contribution certains de nos invités, à commencer par Yann Bertrand. Vous vouliez, Yann, tirer un coup de chapeau à un lieu qui est très ambitieux, alors qui gagne à être connu dans toute la France. De quel lieu s'agit-il ?
Il s'appelle le République Corner, qui est venu se déposer aux abords de Poitiers, où il fait bon finalement partager un verre de vin, un plat, et surtout se distraire, boire, manger, se distraire.
Parce que c'est un lieu de culture, et c'est un lieu de gastronomie, ce que les anglo-saxons appelleraient un food court.
Voilà, ça soit sur des chaises en formica, voilà, donc c'est vraiment très, très convivial et très simple. Et à côté, il y a la salle où on peut assister à des programmations qui sont complètement diverses et variées, spectacles pour enfants, mais aussi pour adultes, des one-man shows, découvrir de nouveaux talents. Donc c'est un a place to be.
Qui connaît République Corner dans le... Bah, toutes les mains se lèvent, bravo. Ouais. J'ai eu de très nombreux retours au sujet de ce lieu où effectivement se mêlent différents stands de cuisine pour manger des spécialités très différentes. Vous approuvez, Emmanuel ?
Tout à fait. Ouais, c'est vraiment the place to be, je suis d'accord aussi.
République Corner, 19 rue de la République à Poitiers, et Ranou Métivier, vous êtes d'ailleurs mécène de ce lieu. Hein.
Oui, on est partenaire de cette initiative, comme on est aussi partenaire du TAP.
Voilà. Très bien.
Et donc on est content d'accompagner ces initiatives locales.
Eh bien, Emmanuel Rapeau, un coup de cœur à boire qui risque d'intéresser votre voisin, notre chroniqueur Jérôme Gagnez.
Mon coup de cœur, c'était plus sur un vin blanc, donc du domaine de la Tour Beaumont, qui, avec d'autres vignerons là, du Poitou, remettent un peu au goût du jour le Fier Gris, qui est un cépage dont mon voisin parlera mieux que moi, mais un cépage qui revient un petit peu, un cépage ancien, et qui s'accorde très très bien avec les fromages de chèvre.
Le Fier, plus loin, Gris, F-I-E, accent aigu.
Absolument.
Parfait.
Et le domaine là, que je vous ai ramené aujourd'hui, la bouteille, c'est du domaine de la Tour Beaumont. Et ça me touche particulièrement de les mettre en avant aujourd'hui parce qu'on a vraiment une histoire un peu commune. C'est aussi une exploitation familiale qui est aussi une transmission d'une génération à une autre à peu près en même temps que nous. Donc voilà, ça me touche aussi de ce côté-là.
Très bien. Qu'est-ce que vous pensez de ce cépage ? François, je sais que vous avez des idées très arrêtées sur le vin. Si je peux me permettre, on en parlera. Mais en tout cas, on est sur une aromatique presque un peu exubérante dans ce cépage-là.
Un petit peu sucrayon, c'est vrai que pour terminer le repas, faire le fromage, le dessert, c'est des choses que j'aime bien, moi, ça.
Très bien. Alors, Jérôme, vous connaissiez évidemment le Fier Gris.
Oui, je connais le Fier Gris. C'est un cépage dont l'origine est encore un peu incertaine entre le Haut-Poitou et le Bordelais. C'est une mutation naturelle du Sauvignon blanc qui est devenu gris, donc ça fait des baies qui sont un peu roses quand ça arrive à maturité. C'est un cépage qui a été sauvé de la disparition. Dans les années 50, il en restait 10 hectares. Il y en a maintenant un peu plus de 600 en France, donc ça reste quand même très faible. Dans la Loire, il y avait un vigneron dont j'aime beaucoup les vins, qui s'appelle Jackie Price, à Valençay, et qui faisait un Fier Gris, qui était très réputé pour son Fier Gris.
Et merci Emmanuel Rapeau pour ce Fier Gris du domaine de la Tour Beaumont, dans le Haut-Poitou. Merci beaucoup. Alors, à mon tour de vous livrer quelques coups de cœur. Sans vouloir vous froisser, cher public, j'aimerais quand même vous lire un extrait d'un long mail que j'ai reçu d'un certain Hugues Schmitt. Quand il a su qu'on dressait le couvert à Poitiers, il m'a envoyé ce mail un peu enflammé. C'est un fidèle auditeur de notre émission qui a vécu à Poitiers près de 20 ans. Il écrit ceci, j'ouvre les guillemets, je précise que j'ouvre les guillemets. Poitiers est historiquement une ville de piété austère, d'affirmation culturelle intransigeante. On y affiche volontiers sa maigreur et l'embonpoint y est moralement réprouvé. Aujourd'hui encore s'y pratique une frugalité scoutiste à base de salade de pâtes, de rémoulade et de piémontaise en boîte. Et de mettre en avant tout de même, dans le terroir local, quelques gloires, dont le lièvre à la royale rendu célèbre par un certain sénateur de la Vienne.
Sénateur Couteau.
Aristide Couteau, absolument, à qui l'on attribue la version effilochée. Moi, personnellement, c'est ma préférée. Et puis, il y a une autre spécialité que je voudrais évidemment vous faire deviner en chanson.
Quand on fait de la sauce au lumard, qui entend Tchola qui jargote, il te biserait sur les dujotes, il s'est benaise dans ma pia, mais tranquillement il frappe dans le pia. Déjà fini, faut que m'ordonne, je te savais comme t'aimes, Nyoune, quand on fait de la sauce au lumard.
Une chanson poitevine que tout le monde connaît, incontournable manifestement des fêtes de village dans le coin, qui célèbre la sauce au luma. Qui autour de ce plateau saurait m'expliquer la sauce au luma ? Alors là, tout le monde me dit non. Ah, mon coup est complètement foiré.
Les escargots, mais...
Quand même, les escargots.
Ouais, les escargots,
absolument. Les lumas ramassés les jours de pluie, moins gros que ceux de Bourgogne, mais plus dodus que les petits gris, qui manifestement s'accommodent avec de l'ail, des échalotes, de la chair de saucisse, cuit au vin blanc, Jérôme Gagnez.
Très bien.
Avec des herbes fraîches, parfois on trouve une version au vin rouge, vous validez ?
Très bien. Il y a également, évidemment, à Poitiers et dans sa région, le farci poitevin, un appareil de porc et de légumes, cousin du farçon ou du farcement, avec des bas morceaux de cochon mélangés à de la verdure blanchie. Ça donne une espèce de terrine emmaillotée comme ça dans des feuilles de choux pressées. Ça, c'est délicieux, j'en ai goûté de très bons. Il y a le broyé du Poitou, à commencer par celui que nous a apporté Marie-Dominique, merci. Eh oui, il y a une formidable auditrice qui nous a apporté un broyé du Poitou, c'est le fameux biscuit local que l'on est censé, casser avec le poing. Maltraitance biscuitière. On lui met un coup de poing et c'est censé répartir le nombre de parts et c'est un délicieux biscuit local. Et puis enfin, le tourteau fromager dont notre ami Hugues Schmitt m'écrit. C'est un monstre venu de la nuit des temps, un fossile vivant, on le dirait tombé du ciel et jailli des enfers. Lourd et subtil, brûlé et à peine cuit, il est à la fois le contenant et le contenu. C'est bien dit, non ? Alors, qui l'a goûté ? Ce tourteau fromager, qui saurait m'en dire un mot ?
Moi, je suis en train de le goûter. Et, donc, il a effectivement cette croûte...
Vas-y.
Cette croûte noire
carbonisée, hein.
Carbonisée, qui contraste avec ce côté très moelleux à l'intérieur. Donc normalement, c'est historiquement lait de chèvre, il me semble. Parfois, il y a un mélange avec du lait de vache.
C'est ça. À la fois très aérien, contraste de texture, tout à fait étonnant. Non, mais on aime le tourteau fromager ou ici, on se dit, c'est pour les touristes.
C'est mieux avec du fromage de chèvre, quand même.
Ah, c'est mieux avec du fromage de chèvre. Et alors, il paraît que le meilleur est celui de la maison...
Jahan.
Ah, et bien là, j'entends Jahan, évidemment. Hein, vous validez ?
Oui.
Jahan ?
Tout à fait.
Y compris la concurrence ?
Oui, oui, tout à fait. Hein.
Non, parce que Ranou Métivier, à un moment donné, faisait aussi du...
On en faisait. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance où, finalement, le laboratoire était complètement enfumé lorsqu'on sortait les tourteaux parce qu'il y avait tout le carbone qui sortait également de la cuisson.
Une espèce de cheesecake local qui est encore réalisé dans les règles de l'art par Jahan, une institution gourmande du Poitou depuis 1971, voilà pour nos coups de cœur dans un instant. On s'attable dans un étonnant bistrot qui gagne à être connu au cœur de Poitiers. C'est Laurent Thomas qui réalise l'émission en public à Poitiers. Fabrice Rivaud nous a aidé à la préparer. C'est notre attaché de production. Et vous savez d'où il est originaire, Fabrice ? De Montmorillon. Vous comprenez mieux pourquoi on est ici. Merci aux équipes techniques de France Inter, Christophe Michou, Sébastien Huel et Benoît Jégou. On se retrouve dans une poignée de minutes juste après All Right de Supergrasse. Un grand classique de 1995, bienvenue dans le chaudron du TAP de Poitiers sur France Inter.
Sur France Inter.
Mesdames, messieurs, bienvenue chez nous, chez Utopia ce soir.
Ici, on met deux choses à l'honneur. D'abord et avant tout, les produits locaux. Ce soir, vous ne mangerez que des produits de la Vienne. La deuxième chose qu'on remet à l'honneur, c'est le menu du jour. Ici, ça change tous les jours, il n'y a pas de carte. Le midi, c'est le traditionnel entrée plat dessert. Le soir, on passe en dégustation en 5 temps, en 7 temps. On va se balader un peu dans le département, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a des choses magnifiques dans la région, surtout au niveau du maraîchage. Des choses pas locales du tout, qui poussent très bien dans la région. On a fait pas mal de découvertes, c'est depuis bientôt un an et demi qu'on est ouvert. Donc, on va voyager sans quitter le département. Et voilà.
On a eu la chance de s'attabler hier soir avec mon équipe chez Utopia, ce charmant bistrot du centre-ville qui agite la scène culinaire de Poitiers. Alors hier soir, c'était plein comme un œuf. On s'est positivement régalé, n'est-ce pas, Zazie ? Et on ne dit pas ça parce qu'on est en présence du chef.
On s'est régalé. C'est une cuisine qui est très végétale. Il y a aussi tout un travail qu'on a trouvé sur les jus, sur les sauces. Le jus végétal avec les navets et céleri rôti qui était très, très, très puissant, très, très bon. Et c'est aussi une cuisine qui est très joueuse. Parce qu'on a passé aussi notre repas à se demander mais qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est du lierre terrestre ? Est-ce que c'est... Donc il y a aussi ce côté très joueur où on découvre plein de saveurs tout en se régalant.
Très joueur et en même temps pas trop élitiste. Vous tenez vos prix, vous êtes même très très carré sur vos marges. Comment vous définiriez tout simplement votre démarche, François ?
Le bon sens. Bocuse disait que pour une bonne cuisine, il faut des bons produits. Pour faire des bons produits, il faut des bons producteurs. Les bons producteurs, s'ils sont autour de chez nous, on peut les rencontrer, on peut discuter, on peut savoir ce qu'ils font, comment, pourquoi, de A à Z. Et pour moi, ça passe par là.
Vous ne faites votre cuisine qu'à partir des produits que vous apportent, ou que vous allez chercher d'ailleurs, que vous apportent des producteurs locaux à l'échelle du département.
Oui, on fait juste une petite exception pour le poisson, parce que les Sables d'Olonne, c'est le port le plus proche, mais on est à une petite heure et demie. Mais en dehors de ça, on fait que des produits de la Vienne, du début à la fin du repas. Ça nous permet de faire des choses extraordinaires. On a un vrai renouveau du maraîchage en France depuis pas mal d'années qui nous permet d'avoir des produits totalement non français à l'origine qui poussent très bien par chez nous.
Exemple ?
J'ai ramené deux, trois petits exemples. Du citron yuzu que tout le monde connaît, qui pousse très bien dans en plein centre-ville de Poitiers. C'est des clients à moi qui me les donnent, parce que voilà, le partage tout simplement. J'ai ramené aussi une variété de piment qui pousse très bien sur Sèvres-Anxaumont chez des maraîchers qui s'appellent Tomate et Potiron, qui adorent ce qui pique. Et à côté, justement, un fruit exotique qui vient de chez eux aussi, la feijoa.
Incroyable, oui. C'est un fruit, racontez-le-nous.
C'est un fruit qu'on trouve dans les Antilles françaises, qui s'appelle le guayavier, ouais. Mais qui est originaire du sud du Brésil. Le sud du Brésil, il fait froid, il n'y a pas que Copacabana là-bas. Et donc, si ça pousse là-bas, ça pousse aussi très bien ici. Quasiment le dernier fruit de l'année en France, maintenant. Des fruits qui aiment le froid, comme le kaki, comme les nèfles. Ça permet d'avoir des saveurs assez improbables et que peu de gens connaissent, alors qu'on peut en trouver dans, un peu partout en France, il n'y a pas que dans le Poitou.
Pas de menu imprimé à la carte d'Utopia. C'est uniquement à la voix que vous annoncez votre menu, vos plats, qui finalement changent tous les jours en fonction de ce que vous trouvez chez vos producteurs, au marché.
Exactement. On a pas mal de producteurs qui nous livrent quand même une à deux fois par semaine. Mm-hmm. Et on a surtout la chance d'avoir un marché sur la place Notre-Dame à Poitiers qui est quand même assez extraordinaire. On a rencontré la majorité de nos fournisseurs là-bas. Et après, bah, de fil en aiguille, ces gens-là se connaissent les uns les autres. Ils nous ont refilé les bons tuyaux et les bonnes personnes à les chercher.
Donc vous diriez, François Vaudéchamps, que Poitiers et sa région sont une formidable terre d'accueil pour des cuisiniers pleins de talent comme vous, parce que vous n'êtes pas du tout du coin. Vous êtes même une pièce rapportée.
Exactement.
Mère bretonne, c'est bien ça ?
C'est ça.
Père
Saumurois.
Ah ben ça, on l'a compris. Hein. Quand on a lu la carte des vins, Jérôme Gagnès.
Alors moi, j'ai vu la carte des vins,
La carte des vins, c'est Vallée de la Loire. Et ensuite, les pages d'après, c'est et le reste du monde.
Et le reste du monde, oui.
Il reste quand même chemin.
Totalement.
Mais vous me l'avez dit en préparant cette émission, vous encouragez finalement plein de restaurateurs à venir dans la région compte tenu de la richesse du maraîchage, de l'élevage, avec d'excellents produits paysans à la clé.
Exactement, non, c'est nous depuis qu'on est arrivé avec ma femme il y a 4 ans qu'on s'est installé ici, on a rencontré beaucoup de gens de la restauration en premier, ça reste un petit métier, un petit milieu, beaucoup de gens qui sont pas forcément originaires de la région aussi, et c'est assez cosmopolite. On a un très bon ami là qui est sous les halles du marché, qui est franco-espagnol et qui fait de la cuisine japonaise, il y a rien qui va dans la phrase, mais c'est extraordinaire, il est absolument pas du coin non plus, mais voilà, je pense que c'est le charme de la France. Non, moi ce qui m'intéresse à travers ma démarche, c'est aussi l'humain, hein, le fait d'avoir ces gens-là, c'est des relations de confiance qui se font au fur et à mesure du temps, et ça c'est très important, surtout quand on travaille avec des gens du monde de l'agriculture, c'est des gens qui sont dans des grosses difficultés assez souvent quand même, c'est important d'avoir du respect pour ces gens-là, et si on les respecte, si on se respecte les uns les autres, forcément derrière à la fin dans l'assiette ça se passe bien.
Ouais, et comme François Vaudéchamps est un chef engagé, enthousiaste et généreux, il nous a préparé une première bouchée apéritive dégustée, attention, à l'aveugle. Bonjour Florence.
Bonjour.
Vous nous avez rejoint sur notre plateau, merci beaucoup de nous faire cet honneur.
Merci.
Qu'est-ce que vous pourriez décrire comme ça à nos auditeurs ?
J'ai l'impression de voir des fleurs.
Ouais.
Il y a du jaune dedans. Alors, c'est des petites taches jaunes, donc ça fait partie de la fleur. C'est rose. Il y a des pétales. Et c'est vrai qu'on a envie d'y goûter.
Eh bien, allez-y. Ne vous gênez pas, Florence. C'est parti.
Ça sent rien. Je sens le pain. Il y a du pain et il y a du fromage. Bon, ah. Alors ça, c'est la première approche. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Ben, c'est à vous de nous le dire, Florence.
Il n'y a pas de roquefort. Ça a le goût de roquefort. Mais...
Alors, il y a une touche fromagère tout à fait intéressante.
Il y a du bleu dedans, non?
Il y a beaucoup de choses dedans. On va en parler, si
alors,
vous voulez.
Les pétales, c'est du radis. Hein. Je pense
exactement.
Que c'est du radis.
Bravo.
C'est un radis, un gros radis, comme j'en trouve sur le marché. Moi,
c'est hein. Ce qu'on appelle les radis d'hiver.
Et le jaune, je ne sais pas ce que c'est que ce jaune.
Vous aimez, Florence?
Ah oui, c'est bon. Hein. Oui.
Et autour de ce plateau, on aime bien ou pas?
Oui, on n'en a pas eu assez, d'ailleurs.
Ah, il va falloir faire repasser quelques bouchées.
Alors, c'est délicieux.
Résultat des jeux, François Vaudeschamps, pour cette bouchée apéritive à la fois légumière et fromagère.
On était sur un sablé au fromage, une crème à base de, j'ai pas honte de le dire, de croûte de fromage, parce que dans une logique de faire du locavore, j'ai aussi une logique de zéro déchet. Et sur le dessus, un peu de radis, parce que ça amène et de la couleur, un peu de croquant, un peu de texture. Et les petits points jaunes, c'était bah justement une vinaigrette faite à base de yuzu. Du yuzu de la Grand Rue, je peux pas faire plus local. On est à moins de 300 mètres d'ici.
Extraordinaire, bravo. Et alors, un petit clin d'œil à un producteur qui est devenu ami et qui vous fournit ses fromages. On peut déjà dire que ce n'est pas Emmanuel.
Non.
Mais c'est un autre producteur de fromage.
Grégoire Mas, à Blanzay, dans le sud de la Vienne.
Oula, voilà. Il a l'air d'être connu. Présentez-nous Grégoire Mas.
Grégoire Mas est devenu un ami là, depuis qu'on est arrivé ici. Et, c'est un monsieur qui n'est pas du tout fromager à l'origine. Il a un parcours de vie assez rigolo. Il fait quasiment que du fromage de vache, un tout petit peu de chèvre, où il achète son lait chez son voisin, qui est la fromagerie de la Reverset, si je ne dis pas de bêtises, qui est assez connu dans le coin aussi. Grégoire, il aime s'inspirer de fromages qu'on connaît tous et de les interpréter à sa manière, et aussi donner des noms un peu farfelus à ses fromages. Un de mes préférés, c'est la cuite à Marcel. Voilà.
De quoi s'agit-il?
C'est un emmental,
oui.
Un emmental de la Vienne, et Marcel en fait est son meilleur ami. Marcel déteste le fromage, sauf celui-là. C'est pas une blague, du coup il a changé le nom de son fromage pour le dédier à son meilleur ami. C'est le seul qu'il accepte de manger.
Mais il faut qu'on aille le rencontrer, ce Grégoire Mas.
Puis c'est toute une famille, hein. Il y a le petit frère qui fait du vin pas loin, il y a un autre fromager dans le sud à Toulouse. C'est pas une famille, c'est une mafia. Hein.
Il travaille en bio, c'est ça ces fromages?
Exactement. Nous on est amoureux de ce qu'il fait parce qu'il y a de la folie. On est peut-être un peu fou aussi chez Utopia, donc en général, on s'entend bien avec les gens aussi tarés.
D'ailleurs, vous m'avez dit, en préparant cette émission, François Vaudeschamps, ici, on m'a pris beaucoup pour un fou quand je suis arrivé.
C'est ça. Moi, j'ai déjà eu deux établissements auparavant. Je sais ce que je veux plus dans ce métier, aussi bien en termes de confort de travail que rapport à la clientèle et sur la rentabilité d'une entreprise. Un restaurant, c'est bien de faire plaisir aux gens, mais ça reste une entreprise. On s'est mis à deux avec ma femme, on a mis notre vie entre guillemets en danger, notre vie financière par rapport à ça. On a un enfant élevé. Si ça marche pas, on recommence depuis zéro. Et voilà, tout est local, mais la cuisine ne l'est pas du tout. Ça parle pas forcément aux gens du coin. Comme disait le monsieur dans le mail, c'est vrai qu'à Poitiers, je me fâchais peut-être avec des collègues, mais c'est un petit peu compliqué la restauration dans le coin. Il y a des très bons restaurants, un peu plus dans les campagnes, il y a des très bonnes choses. Moi qui arrivais de Paris, qui ai connu l'effervescence de tous les restaurants à tous les coins de rue, avec toutes les spécialités du monde et tout ce qui est possible, tous les petits bistronomiques de fou qu'il peut y avoir, arriver ici pour moi c'est un peu compliqué. Je cuisine d'abord et avant tout pour que les gens soient heureux de manger quelque chose de bon et qu'ils ne connaissent pas.
Mais en même temps, ce qu'il y a de tout à fait surprenant dans vos assiettes, c'est qu'elles sont parfaitement originales, comme le disait Zadie, il y a vraiment un rapport ludique à vos assiettes. Et c'est pas du tout élitiste, c'est pas du tout snob. Au contraire, c'est même très ouvert, très consensuel. Moi, je remarquais les tables tout autour de nous hier. Ça jouait, ça appréciait. Vous n'êtes pas dans une cuisine frontale ou provocante. Vous êtes quand même dans une cuisine d'équilibre tout à fait intéressante et qui parle à tout le monde.
Merci beaucoup.
Non, mais c'est vrai.
Merci beaucoup.
On peut être à la fois très très engagé, voire même un peu extrémiste dans sa démarche en termes de choix de produits, d'écologie, etc. Mais en tout cas, dans l'assiette, encore une fois, vous caressez souvent les clients dans le sens du poil.
Bah, je pense que c'est le but d'aller au restaurant, c'est d'avoir des choses qu'on ne connaît pas, puis d'avoir une cuisine gourmande, roborative, quand même, même si on fait beaucoup de végétal. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu entendre dans les reproches, que voilà, on faisait que des légumes, que nanana, nanana. Tout ce qui est végétal, c'est quelque chose qu'on a peu exploité dans la cuisine française traditionnelle. Les choses à base de viande, à base de poisson, on en connaît plein. Quand on parle de spécialité culinaire en France, on est souvent associé à de la protéine animale, beaucoup moins du végétal, alors que justement, le végétal, c'est beaucoup plus infini que les produits animaux. Et donc du coup, la folie culinaire est beaucoup plus facile à trouver en fait.
Mais on a goûté par ailleurs quand même hier un excellent magret de canard avec une peau bien croustillante et une chair très très bien cuite, pas trop rosée justement.
Exactement. Une petite sauce poulette aussi pour l'accompagner.
Petite sauce poulette extraordinaire. Et puis il y avait cette volaille qui était magnifique aussi. Ça, la cuisse est le suprême. Régal absolu. Et vous allez voir d'ailleurs tout à l'heure le dessert incroyable qu'il nous a préparé, tout à fait étonnant, puisqu'évidemment, monsieur se prive du cacao, de la vanille, du café et autres produits lointains. Et vous verrez dans un instant ce que ça donne. Ça va, Emmanuel Rappeau ?
Ça va, merci, et vous ?
Présentez-nous votre ferme.
Nous on travaille dans une ferme, donc moi et une super équipe de salariés, quand même, faut le dire aussi. On a une ferme qui existe depuis 68, qui avait été achetée par mon grand-père.
Entreprise familiale.
Entreprise très familiale. Moi, je suis la troisième génération sur la ferme, et donc on a aujourd'hui 160 chèvres et on transforme tout le lait de nos chèvres en fromage fermier et au lait cru.
Voilà, parce qu'alors souvent on a du mal à faire la différence entre un fromage fermier et un fromage artisanal. Un fromage artisanal n'est pas forcément fermier, alors non. Qu'un fromage fermier est forcément artisanal, on est d'accord ?
Absolument.
Définition d'un fromage fermier ?
Fromage fermier, c'est un fromage qui est transformé avec exclusivement le lait de nos chèvres sur place.
Avec vos 160 têtes, je crois, de race alpine, même si vous lorgniez du côté de la Poitevine. Hein.
J'avoue que oui, forcément, la Poitevine, ça nous tente. Après, moi, j'ai repris une exploitation où il y avait déjà des chèvres en place, donc on ne va pas tout changer du jour au lendemain, mais on se dit quand même que c'est une race locale, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'installent en chef Poitevine et que quand même, ça pourrait peut-être être intéressant un jour d'essayer d'introduire quelques Poitevines dans le troupeau. Ouais.
Le gros plateau de fromage que vous nous avez apporté, je pense qu'il fait au moins 50 cm de diamètre, représente toute la pluralité des pépites fromagères que vous préparez au quotidien, exclusivement à base de lait de chèvre cru.
Hein. Oui, au lait cru, oui.
Racontez-nous les fromages, parce qu'alors il y a plusieurs savoir-faire de transformation.
Alors, on fabrique deux grandes familles de fromages, donc ce qu'on appelle les pâtes lactiques, donc c'est les fromages assez classiques hein, qu'on connaît un peu tous, les bûches, les chabis, les pyramides, tout ce qui est assez classique en fromage de chèvre, et on fait aussi pas mal de pâtes pressées. Tomme de chèvre, là j'ai ramené une tome un peu plus affinée, une plus jeune, une tome au fenugrec et le dernier né de nos valoirs d'affinage qui est de la raclette de chèvre.
De la raclette de chèvre ?
Ouais.
Oh là là, moi qui adore la raclette, je suis pas le seul d'ailleurs, parce que quand vous voyez les chiffres de consommation de la raclette en France, c'est absolument affolant. Mais alors, raclette de chèvre, c'est tout à fait étonnant et j'imagine que c'est un peu plus digeste ?
C'est un peu plus digeste.
Un peu moins gras aussi ?
Un peu moins gras, oui. Quand on fait fondre, il y a un peu moins de gras. Non, c'est pas gras. C'est une idée.
Vous n'en mangez jamais d'ailleurs, Jérôme Gagnès ?
Non, jamais, non.
Bah pour la bonne conscience, la raclette de chèvre, c'est donc un petit peu moins gras.
Ah bah j'en mange une demain soir.
Voilà. Hein. Et donc oui, on cherchait vraiment à faire quelque chose pour retrouver le filant du fromage à raclette, parce que jusque-là, on conseillait la tome pressée pour faire fondre, et on cherchait vraiment ce côté filant dans la production de fromage. Et là, on est assez content du résultat du fromage qu'on a sorti. Donc la semaine dernière, hein, c'est tout nouveau.
Cette meule, avec cette morge de couleur un peu rosée.
C'est un petit format, hein, parce qu'on essaye de les affiner un petit peu plus rapidement, mais ça, c'est du fromage à raclette.
Waouh, il fait envie, hein, avec quelques petits trous.
Voilà, faut imaginer les pommes de terre, la charcuterie, tout ça.
Ah bah on imagine bien, ouais.
Voilà. C'est vraiment très très bon.
On imagine bien. La ferme du Marat, qui connaît dans notre public ? Oh là là ! Ah ouais ! Ah d'accord ! Le nombre de mains qui se lèvent, en effet, vous êtes connu comme le loup blanc, je le disais. Vous distribuez d'ailleurs essentiellement en circuit court, même en vente directe.
Alors même 100% circuit court, après principalement vente directe en grande partie sur les marchés à la ferme, le marché Notre-Dame aussi, où on est voisin donc de Topia,
exactement,
le samedi matin, et le marché de Chauvigny puisqu'on est chauvinois, et puis donc un petit peu à la ferme et après dans différents restaurants entre Chauvigny et Poitiers, on vend tout sur 30 km, là, sur l'axe Chauvigny-Poitiers on vend toute notre production.
On est dans un terroir laitier et fromager de tout premier plan, avec des appellations d'origine protégée tout à fait célèbres. Pourquoi ne faites-vous pas de chabis chou ?
Aujourd'hui, on n'en fait pas. On fait du chabis. Je vous ai ramené le moule du chabis.
Et la version un peu, on va dire, très fermière et paysanne du chabis chou ?
Voilà, c'est une version plus locale. En tout cas, que moi, ma mère a toujours fait à la ferme. Donc ce chabis, qui est là en version un petit peu plus affinée. Là, c'est un fromage qui a 3 semaines à peu près. Qu'on fait donc dans ces moules-là. La différence avec le chabis chou, ça va être un moule qui va être un petit peu plus étroit et un peu plus haut. Et avec la marque CDP, chabis chou du Poitou... en dessous. Mais on a envie d'essayer d'en faire, en tout cas pour l'année prochaine, principalement pour la jouer un peu collectif avec les collègues et promouvoir ensemble le fromage de chèvre et le chabichou qui est notre AOP.
Parce qu'alors, soyons honnêtes, peut-être que certains d'entre vous ont assisté à l'émission On va déguster en 2019. Nous dressions le couvert une première fois dans votre ville et nous avions invité Philippe Masset,
oui,
le Meleli, une ferme bio à Messey, qui me disait à l'époque « Pas question de toucher au chabichou, c'est un fromage qui a dérivé vers l'industrie, qui n'impose plus le lait cru. » Et il faut reconnaître que l'appellation d'origine protégée a fait des efforts considérables, a imposé en 2021. On critique assez Jérôme Gagnez, les AOP, pour signaler qu'il peut y avoir des progrès dans le cahier des charges en imposant, oui, le lait cru,
oui,
ce qui est une très bonne chose à l'échelle de tout le chabichou, mais également l'interdiction de l'ensilage.
Oui.
Donc il y a des règles concrètement qui ont été rendues plus strictes.
Mais je pense que c'est aussi pour ça que ça nous tente maintenant, parce que justement c'est un peu plus strict et que ça mérite qu'il y ait plus de producteurs fermiers qui s'y intéressent.
La forme du chabis, c'est pas tout à fait un cylindre, il y a un mot très technique pour définir cette forme.
C'est tronçonnique.
Oui, c'est ça.
Oui.
Donc tronçonnique, ça veut dire...
Un petit tronçon.
Oui, un petit tronçon avec un sommet un tout petit peu plus étroit que la base.
Oui, donc ce n'est pas tout à fait là, le moule que je vous présente qui est sous vos yeux, mais oui, c'est le sommet qui est un petit peu plus bas que la base et c'est un fromage qu'on va moins retourner forcément pour garder cette forme-là. Dans les retournements en fromagerie, on en fera un petit peu moins.
Certains auditeurs et auditrices derrière leur poste sont certainement étonnés par une chose, c'est que nous parlions de fromage de chèvre au mois de décembre, à quelques semaines des fêtes de fin d'année, alors que le fromage de chèvre est censé être... un produit de saison dans sa version originelle, parce que la lactation des chèvres, ce n'est pas toute l'année. Or vous proposez du fromage de chèvre en décembre. Comment cela se fait-il ?
Alors, il y a une solution, en tout cas, pour avoir du fromage même l'hiver. C'est vrai que traditionnellement, quand on voit du fromage l'hiver, on peut se dire, c'est pas normal, c'est pas la bonne saison. C'est vrai ? On va tarir nos chèvres, là, nous, c'est la semaine prochaine, hein, le tarissement. Donc, on va les laisser 2 mois tranquilles pour avoir les mises bas mi-février. Donc, normalement, c'est une période sur laquelle il n'y a pas de lait. Ce qu'on fait chez nous et chez d'autres, ce qui se fait de plus en plus maintenant, c'est ce qu'on appelle les lactations longues. Donc, c'est des chèvres qu'on mit bas une première fois pour lancer la lactation. Et après, qu'en fait, on n'arrête pas de traire. On va continuer de les traire matin et soir, tous les jours, et ça peut durer plusieurs années sans aucun problème si elles sont en bonne santé et si on les nourrit correctement.
Il y a un peu moins de lait, j'imagine.
Il y a un peu moins de lait, mais puisqu'il n'y a pas le tarissement, on ne perd pas les 2 mois où on ne les trait pas. Donc l'un dans l'autre, ça évite aussi les problèmes qui peuvent être liés à la mise bas, parce que ça reste toujours un risque pour la santé de l'animal, et ça nous permet d'avoir moins de mise bas, moins de chevreaux à gérer. Donc il y a quand même beaucoup de côtés positifs.
Oui, parce que les débouchés pour les chevreaux dont vous devez malheureusement vous séparer, c'est aussi un vrai sujet pour les éleveurs caprins.
C'est un vrai sujet. Nous, on a la chance d'avoir moins de mises bas et d'arriver à les vendre en général à d'autres élevages. En tant que reproducteur, ça se passe globalement pas trop mal, mais c'est un vrai sujet, ouais, ça c'est sûr.
Vous avez eu le temps de goûter un peu la jolie sélection d'Emmanuel dans vos assiettes ou pas, chers amis ?
J'en connais même partie. J'ai testé le maraclette, mais Emmanuel n'était pas au courant. Avec un de ses meilleurs clients,
oui,
Olivier Leclerc, qui est un restaurateur qui travaille beaucoup, beaucoup les fromages d'Emmanuel et d'autres d'ailleurs.
Vous l'avez aimé cette raclette ?
Oui, oui, ah, oui. Ah, surtout bien. À 1h30 du matin, c'est extraordinaire.
C'est la bonne heure, ça.
Yann,
c'est l'heure des restaurateurs.
Juste avant de se coucher, c'est bien.
Yann Bertrand, vous connaissiez les fromages d'Emmanuel Rappeau ?
Bah écoutez, non, parce que nous on est plutôt du côté de la Trimouille, il y a aussi des producteurs de chèvre, et je suis plutôt sur mon rayon, mais il n'y a pas un repas sans fromage de chèvre.
Et oui, évidemment, ça c'est une tradition au Poitevine. Absolument, attention Zazie Tavitian nous fait goûter un fromage un peu spécial.
On va déguster sur France Inter.
Chers Zazie Tavitian, vous êtes allé nous dégoter une spécialité culinaire poitevine un peu inattendue qui peut avoir un petit lien de parenté avec le fromage.
Elle peut avoir un petit lien de parenté avec le fromage parce que Poitiers, on connaît, vous l'avez dit, son farci poitevin, ses tourteaux fromagers et son tofu, bien évidemment.
Oui, son tofu, oui,
bien sûr.
Son tofu, mais sûr. Oui.
Car depuis quelques mois, ici à Poitiers, Victor Figuera produit cette pâte de soja artisanale à partir d'ingrédients locaux. Victor, il a découvert le tofu à Hong Kong durant ses études. Ça a été un coup de foudre. Et il faut dire que là-bas, comme dans beaucoup de pays asiatiques, il existe de nombreuses variétés de tofu, soyeux, mi-ferme, fermentés, comme ce fameux stinky tofu.
Oui, je reviens de Taïwan et j'ai goûté le stinky tofu, qui veut dire en bon français le tofu puant. Et je l'ai vérifié avec mes narines.
Ah, c'est intéressant ça.
C'était
en tout cas, vous le vendez bien. Hein.
C'était quelque chose d'extrêmement puissant, mais délicieux.
Et alors, il y a 2 ans, Victor, il a décidé de se lancer pour apprendre à en fabriquer. Pour cela, il a entrepris un voyage bas carbone, parce que depuis Poitiers, il est parti en train et en ferry jusqu'à Taïwan, justement, où il s'est formé pendant 1 mois. Et il est revenu avec des machines rutilantes pour ouvrir son atelier à Coulombier, donc aux portes de Poitiers. Victor, il prépare son tofu tous les mercredis. Je suis donc allée lui rendre visite il y a quelques jours pour le préparer avec lui. Alors j'ai mis ma petite Charlotte sur la tête, mes surchaussures aux pieds, et j'ai demandé à Victor de nous raconter sa recette.
On part des graines de soja sèches qu'on vient en fait réhydrater, qu'on vient broyer avec une meule de pierre pour extraire le lait de soja, qui est en fait le jus de la graine de soja. C'est un soja qui vient de 25 km d'ici, cultivé en bio. Là, le lait est en train de cuire, il va falloir le faire cailler. Donc on va ajouter le coagulant naturel qui s'appelle le sel de nigari. C'est un coagulant traditionnel japonais qu'on trouve maintenant en Europe.
Ça sent vraiment le lait de soja.
Ouais, avec un petit côté vanillé. Je trouve que la variété de soja avec laquelle je travaille, elle a naturellement ce goût un peu vanillé, sucré, que je m'explique pas, mais dont je suis très content. Donc, moi, je fais un tofu qui est mi-ferme dans sa texture. Il est très tendre par rapport à ce à quoi on a l'habitude en France.
Donc là, attention à ton micro, juste que ça va éclabousser un peu partout.
Ok.
Donc là, on prend de l'âge de lait de soja cuit dans des bacs, dans des grosses marmites. Il faut aller vite parce que c'est une étape où le lait ne doit pas redescendre en température. Là, on passe à l'étape du caillage, le lait est cuit. Donc, je vais y ajouter mon coagulant naturel, le sel de nigari. Et ça va permettre de figer le lait de soja. Chez nous, ils appellent ça la tempête du lait de soja. On commence à voir déjà des particules solides qui se forment. C'est assez magique quand même. Ça prend un petit peu de temps. Pour faire du tofu, il faut beaucoup utiliser... on va dire le toucher, mais aussi pas mal l'odorat. Ça mobilise les 5 sens quasiment, quoi. Donc là, j'ai humidifié les étamines, donc ce sont des grands linges blancs que je viens disposer au fond des moules, et je vais ensuite verser le caillé de soja dans ces étamines pour justement lui donner la forme caractéristique rectangulaire ou carrée du tofu. Là, il faut y aller délicatement, parce que sinon, si on casse le caillé, on va justement aller vers des textures qui sont très fermes, qui sont pas agréables en bouche. Et on va le laisser s'égoutter à peu près 2 minutes par bloc avant de passer au pressage, en fait. La différence entre un tofu industriel et un tofu artisanal, c'est précisément que le pressage va être beaucoup plus doux et ensuite il va partir à la presse plus intense. Donc là, on va sortir les moules de la presse et on va les plonger dans de l'eau très froide pour justement figer le tofu, faire en sorte qu'il se conserve plus longtemps aussi. Il y a un petit coup de force physique puisqu'il va falloir le démouler comme un flambi, quoi. Il n'y a plus qu'à enlever les tamines et on va enfin découvrir le tofu nu, entre guillemets.
Il est magnifique.
Il est beau, très régulier, il n'y a pas d'aspérité, c'est vraiment ce que je cherche à faire dans du tofu, quoi. C'est quelque chose de très lisse.
Bah là, on a carrément envie de prendre une fourchette et de manger.
Je vais te faire croquer, tu vas voir.
Preuve, avec votre reportage, Zazie Tavitian, que dans le terroir poitevin, la tradition côtoie l'innovation.
Eh ben oui, complètement. Et vous le disiez, ça ressemble effectivement un peu à la fabrication du fromage, sauf qu'il n'y a pas de fermentation. Et je me demandais dans cette salle, qui aime le tofu ? Petit test par applaudissement. Ah, quand même, ah, quand même.
Et qui connaît le fabuleux tofu de Victor Figuera ? Sacré garçon, quand même. Avec du soja local et bio, en voilà une très très belle initiative.
Alors vous l'avez devant vous, vous aussi vous allez avoir le droit de le croquer. Vous avez le tofu champignon truffe, donc ça c'est un tofu qui fait là en ce moment pour les fêtes. Vous avez un tofu fumé qui est fumé avec du bois de châtaignier de Bressire juste à côté dans les Deux-Sèvres. Et aussi le nature que j'ai assaisonné avec un trait de soja mélangé à de la mélasse de date pour faire un soja un peu sucré et huile de sésame grillée.
Alors, vous connaissiez ou pas François Vaudeschamps ?
Oui, j'avais rencontré Victor avant qu'il démarre son activité. Et je suis très content parce que là, ça faisait une petite année que je ne l'avais pas regoûté. Et je trouve qu'il il a affiné, il a évolué son travail. Et chose auxquelles je m'attendais parce que vu le personnage, voilà, tant qu'il prenne son envol et qu'il affine ses techniques de travail, etc. Ouais, c'est,
Vous auriez envie de transformer son tofu ? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec du tofu en cuisine là, chez Utopia ?
C'est une bonne question. On en a fait 2 fois pour des menus vegan. On avait de la demande pour des amis à nous. Et je me rappelle plus ce que j'ai fait. C'est le problème de changer tous les jours.
Bah oui, voilà.
Heureusement qu'on garde les menus écrits quelque part.
Est-ce que notre productrice de fromage, de chèvre, fermier, a quelque chose contre le tofu ?
Non, rien du tout. Non, mais je le trouve très bon. Et je trouve ça chouette à chaque fois qu'il y a des initiatives comme ça autour de chez nous. Ça
n'empêche pas l'autre, en fait.
Non, mais pas du tout, vraiment pas. Mais il est très, très bon.
On considère un peu comme genre juste un truc réservé à la cuisine végane et pourquoi pas cuisine végétale. Mais c'est aussi un excellent
produit avec des goûts noisetés, une texture tout à fait étonnante. Et c'est un très bon support d'assaisonnement.
Oui, et c'est vraiment une page blanche culinaire. On peut faire énormément de choses avec le tofu. Et pour ça, il faut aussi s'inspirer des cuisines asiatiques, chinoises, où il y a plein de recettes de tofu. Et on peut notamment cuisiner du tofu avec de la viande aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec le tofu.
Victor Figaret est dans la salle ou pas?
Ah, oui, il lève la main.
Bravo Victor. Bravo. C'est pour ça que Victor Figuera a entamé une carrière tofu tout flamme. Dans un instant.
Oh, c'est magnifique.
Je voulais juste dire qu'on peut retrouver ce tofu au marché de Notre-Dame, justement, le samedi, et dans beaucoup de magasins bio de la ville, voilà, si vous voulez le goûter.
Le tofu du Poitou, c'est ça?
Le tofu du Poitou.
Le nom exact. Merci beaucoup, avec un compte Instagram auquel je viens de m'abonner. Dans un instant, une belle surprise de Jérôme Gagnès dans nos verres, et puis on va passer évidemment au dessert.
Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. L'espoir dans le matin bleu, soudain vacille et chancelle. Comment sommes-nous venus là? Qui nous a égaré là? Nous n'avons fait qu'obéir, nous n'avons pas su choisir. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Combien faudra-t-il de peine avant que la joie revienne? Tout ira de mieux en mieux, tout sera si merveilleux. Quel doux chant, quel joli rêve, quel doux miel à nos lèvres. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Au cadran, les heures s'habillent, à l'horizon, rien ne brille. Aube froide et moment pourrait nous assassiner. Demeurons côte à côte, avançons l'un contre l'autre.
Poussière d'or, le nouveau titre de Stéphane Escher, Poitiers et le Poitou, au menu dont on va déguster devant le public, chaud bouillant de Poitiers. Merci au TAP, grande scène de Poitiers, pour votre accueil, et merci cher public. Attention, Jérôme Gagnès lève haut son verre au haut Poitou.
On va déguster sur France Inter.
C'est pas l'ouverture de bouchon la moins réussie.
Ça, c'est vrai. Cette magnifique énigme, j'ose le dire, que j'ai donnée en début d'émission.
Répétez-nous l'énigme.
On va goûter un beau pinot qui fait la queue de paon.
Okay.
Donc le pinot du domaine du paon perché. Avouez que c'était remarquable quand même.
Ouais, ça, c'est ouais. Quelle pirouette.
C'est exceptionnel. Bien. Je me suis intéressé à ce domaine d'abord parce qu'on m'en avait parlé, parce qu'ensuite j'ai goûté les vins, qu'il s'avère que j'ai bien aimé le vin, notamment ce pinot, que j'ai même beaucoup aimé, que je trouvais parfumé, fin, élégant. C'est un pinot sur calcaire. Alors, dans le Haut-Poitou, les vins sont en général en rouge. Ils sont souvent l'assemblage de Cabernet Franc avec du pinot noir, éventuellement du Gamay, parfois seulement du Cabernet Franc. Et puis en blanc, ils peuvent être issus seulement du Sauvignon ou éventuellement Sauvignon gris et Sauvignon blanc. Je me suis intéressé à ce pinot parce que j'ai trouvé qu'il était fin, qu'il était élégant, qu'il était parfumé, qu'il était tout à fait typique de ce qu'on est en droit d'attendre d'un joli pinot sur calcaire, avec des tanins qui sont fins, un tout petit peu saillants, parce qu'on a évidemment le calcaire qui va donner ces tanins qui sont toujours un petit peu un peu plus crissants, on va dire.
Un peu accrocheur.
Oui, voilà, un petit peu accrocheur, mais c'est ce qui fait partie du charme de ce vin, c'est ce qui en fait son équilibre aussi. Il y a une jolie acidité, on sent une vendange qui est proche du fil de la maturité, parce qu'on a une petite note végétale au nez, mais qui participe aussi de la complexité de ce vin. Donc j'étais charmé par ce vin, et puis j'étais aussi intéressé par la démarche de ce domaine. C'est un domaine qui fait une vingtaine d'hectares et qui s'est fixé un objectif éminemment louable, qui consiste à s'investir dans l'insertion professionnels de gens qui sont au chômage depuis très longtemps, qui sont éloignés du monde de l'emploi. Et je pense que c'est très important à deux titres. D'abord parce que, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, le travail, c'est pas une exploitation, c'est surtout un moyen de s'émanciper, c'est un moyen de se sociabiliser, c'est un moyen d'être fier de soi parce qu'on fait un joli travail. Et puis la deuxième chose, c'est que ce métier de la viticulture, qui est un très beau métier, parfois difficile parce qu'on travaille dans la nature, parfois dans le froid, parce que c'est un travail qui peut être physique, mais c'est un très beau travail que d'élever un raisin, que de choyer une plante pour l'amener à maturité, pour faire les plus beaux fruits possibles, pour faire le meilleur vin possible. Et donc, ce domaine, qui est dirigé aujourd'hui par German Müller et Valentin Ramel, eh bien, ce domaine, il s'investit dans cette mission qui consiste à ramener des gens dans le monde du travail en leur apprenant un métier, et en particulier d'ailleurs, dans un domaine où on manque de bras cruellement, on cherche de la main-d'œuvre. Et je vous engage, il y a une bouteille pour le public, vous pourrez goûter en fin d'émission.
Venez nous voir après l'émission.
Vous pouvez venir nous voir à découvrir ce très joli Pinot. Il y a deux Sauvignons qui sont produits dans des registres tout à fait classiques. Découvrez ce domaine, il y a une belle maison d'hôtes, ils font de l'œnotourisme, ils font des visites, ils apprennent au public ce que sont les vins, ce qu'est la vigne, comment on la cultive, comment on fait le vin. Bref, c'est un domaine qui est en pointe, c'est un domaine qui est très accueillant et on a besoin de ce genre de domaine aujourd'hui dans la viticulture en France. Bravo, le domaine du Pan Perché.
Donnez-nous, merci. Donnez-nous une fourchette de prix pour cette cuvée en 100% Pinot Noir du Pan Perché.
14 euros, c'est une aubaine. Aujourd'hui, le Pinot Noir est un cépage qui est très à la mode. Donc, l'inflation est effrayante sur les vins issus de ce cépage, notamment en Bourgogne, où c'est devenu carrément délirant. Et donc là, à 14 euros, on a vraiment un très joli vin. Il faut vraiment pas se priver.
Il y a une commune de la région proche de Poitiers, qui rime avec macaron. Je vous laisse la prononcer, Yann Bertrand.
Montmorillon.
Ouais, le macaron de Montmorillon. Alors moi, j'avais découvert, pour la petite histoire, ce macaron en 2008, à l'occasion d'un reportage. J'étais venu à Poitiers, j'avais rencontré votre frère Lionel. C'était pour un papier dans la presse écrite. J'avais même rencontré votre père Patrick. Ouais, et j'avais découvert ce macaron que j'ignorais. Et j'avoue que j'en ai goûté, hein, des macarons en France. Hein. On peut citer quel macaron en France, Zazie, Jérôme ?
Macaron de Nancy.
On avait le même, nous, en fait.
Il y a le macaron d'Amiens, il y a le macaron de Saint-Émilion, il y a le macaron de Sainte-Croix, le macaron de Saint-Jean-de-Luz. Bref, il y a beaucoup de macarons. C'est une tradition de biscuits aux amandes, à la poudre d'amande avec du sucre et des blancs d'œufs. C'est d'ailleurs, à l'origine, je crois, un savoir-faire ecclésiastique. Et il faut reconnaître que le macaron de Montmorillon n'est pas forcément le plus célèbre de France, mais pour moi, c'est tout simplement le meilleur. Non,
je me suis habitué au macaron de Montmorillon depuis 2008. Je trouve que c'est le plus généreux, c'est celui qui a le plus de goût d'amande.
Il a un contraste de texture qui est tout à fait agréable. Il n'est pas trop macaronné, donc pas trop mâchouillant. Bref, il a tout pour lui quand même.
C'est un petit cœur tendre d'amande, voilà, qu'on partage depuis des générations dans le cœur des Poitevins.
Parce qu'alors, c'est une histoire de famille, hein. Vous incarnez la cinquième génération. Racontez-nous cette jolie histoire qu'il y a derrière votre macaron.
Donc la première trace du macaron remonte au XVIIe siècle, lorsque l'évêque de Poitiers descendait visiter la Maison Dieu à Montmorillon. Eh bien, les moines augustins s'empressaient d'aller acheter cette douzaine de macarons qui est cuit sur feuille. Hein, donc c'est vraiment la particularité aussi de notre macaron, c'est
cuit sur feuille. Il est vendu sur feuille.
Vendu sur feuille.
Il y a 12 macarons sur un papier de cuisson, c'est vendu comme ça.
On vend à la douzaine, voilà. Et en général, au bout du repas, la douzaine, elle a disparu.
C'est ça. C'est effectivement vos aïeux qui ont lancé l'aventure.
Cinquième génération, donc oui, mais déjà en remontant au XVIIIe siècle, il y avait déjà une famille qui transmettait aussi de génération en génération ce secret de cette fabrication du macaron de Montmorillon. Et mon arrière-arrière-grand-mère, à la fin du siècle dernier, a poursuivi cette activité de production avec toute seule dans un premier temps, et après avec sa fille Madeleine, un prénom prédestiné pour la pâtisserie. Et cette pâtissière aux doigts de fée, comme on aimait la nommer, à développer petit à petit les produits à base d'amandes, parce que le fil conducteur, c'est quand même au sein de notre biscuiterie, c'est l'amande.
Donc, enseigne Ranou Métivier qui remonte à 1920 quand même. entre Madeleine et son mari Fernand Arnoux, c'est ça ?
Voilà, un breton.
Et la recette est presque plus protégée que celle d'un célèbre soda américain.
Ah bah écoutez, oui, elle est secrète, mais vous voyez, aujourd'hui, je vais vous la...
Alors, scoop mondial.
Je vais vous la révéler.
Yann Bertrand révèle, enfin, la recette du macaron de Montmorillon, mais je crois que vous allez être déçus.
Non, vous prenez d'abord une bonne poignée d'amandes émondées, oui. Voilà, pour enlever cette peau brunâtre qui a l'acidité.
D'accord.
Ensuite, vous prenez une once de sucre, sucre de canne. Mm-hmm. Après, vous prenez une douzaine d'œufs. Mais vous ne gardez que les blancs, hein. Vous, les jaunes, vous les garderez pour faire une sauce. Et puis après, vous mélangez tout ça, adroitement, avec une petite pincée de malice et une brassée de générosité. Je pense que ça va le
faire. La lampe de bois. Non mais, excusez-moi, blanc d'œuf, sucre de canne, amande, il y a autre chose ?
Un tour de main.
Oui, d'accord. Un tour de main et beaucoup d'amour. Mais on beaucoup est d'amour. Sur un gâteau extraordinaire. Vous appréciez ou pas le macaron de Montmorillon ?
Bon, c'est hyper bon.
On en mange comme ça.
Après, moi, ça, je connais depuis que je suis toute petite. J'en emmène partout, à tous les dîners. Bon, j'emmène un peu de fromage, mais un peu de macaron aussi à chaque fois. Et toujours un succès.
Alors, on les trouve localement. Il y a plusieurs boutiques. On peut se les faire expédier aussi, ces macarons de Montmorillon ?
Oui, parce que finalement, les poids de vin qui sont exilés, ils sont en manque. Donc, on livre régulièrement dans le monde entier.
C'est ça. Et vous êtes, grâce à votre papa Patrick, depuis quelques années, reconverti dans la chocolaterie, une chocolaterie engagée.
Voilà, donc c'est effectivement important de connaître nos producteurs. Et on a créé une association qui s'appelle le Club des chocolatiers engagés avec des confrères chocolatiers. Et l'objectif, finalement, c'était de se rapprocher de ces planteurs. C'est suite à un message Facebook d'une co-acucultrice qui nous a dit « Écoutez, nous, on n'arrive plus à vivre de notre production, donc aidez-nous ». Le cours du cacao était très bas à l'époque. Et donc là, on s'est dit « On peut plus ne rien faire ». Donc on s'est dit « On va demander à nos fournisseurs de chocolat qui transforment ce cacao d'aller acheter le cacao au prix qu'on aura décidé avec les planteurs ».
Et on goûte là quelques spécialités des bonbons au chocolat que vous nous avez apportés. Qu'est-ce qu'il y a au menu ?
Alors cette année, on a donné un petit côté indien à notre collection. Donc si vous voulez, on peut goûter un chocolat noir que vous avez dans vos assiettes qui est à base d'ashwagandha, qui est une plante connue pour ses vertus anti-stress. Mais vous voyez, comme le chocolat est aussi un anti-stress, eh bien, pour la dégustation d'un chocolat, on a les deux effets qui se cumulent. Quoi.
Donc, la maison Ranou Métivier avec ses chocolats et ses macarons. Bravo Yann.
Merci à vous et bonne dégustation.
On va les goûter ces chocolats et on finit par le petit dessert inattendu de François Vaudéchamp, le chef de Topia, un bistrot qui se fait remarquer du côté du centre-ville de Poitiers. Alors ce dessert va être goûté à l'aveugle par une jeune auditrice qui nous a rejoint. Bonjour Mona.
Bonjour.
Comment ça va ?
Je vais bien.
Vous êtes au collège, au lycée ?
Au collège.
Au collège, en quelle classe ?
Troisième.
Vous êtes même une consoeur en fait. Vous animez une web radio.
Oui, on anime ma radio.
C'est super. Alors Moana, est-ce que vous avez eu le temps de vous frotter à ce dessert de François Vaudéchamp ?
C'est un goût assez particulier.
Ouais.
C'est sucré, un peu salé en même temps, c'est un peu bizarre.
Vous avez dit salé ?
Oui.
Il n'y a pas un gramme de sel.
Oui.
Il y a un arrière-goût un peu bizarre. Qui rend ça très bon.
On me le dit souvent.
Il y a un petit côté de topinambour.
Presque.
Ah, je sais,
moi. On y arrive. On recommence à jouer comme hier soir.
Le cousin du topinambour ?
C'est ça.
D'accord. Ça commence par un H ?
Exactement.
Ah, je l'ai. Une crème des liantis ?
Exactement. Crème caramel et liantis. Quand même se rappeler qu'on fait du sucre de betterave à base de betterave depuis 200 ans. Les racines sont des choses qui contiennent énormément de sucre. Et tout particulièrement le topinambour. C'est certainement même celle qui en contient le plus. Et ça a ce goût un peu artichaut, noisette, etc.
Et vous avez mis tout ça, évidemment, sur un petit broyé du Poitou.
Bien évidemment, un sablé breton.
Mais oui. Il vous cherche, hein. En préparant l'émission, je lui dis « J'espère que vous travaillez le broyé du Poitou ». Il me dit « Voilà, c'est dur comme du bois, il n'y a pas assez de beurre dans le broyé du Poitou ».
Non, ça ne s'appelle pas un broyé pour rien.
Non, l'émission était très réussie et là, c'est le drame. Pour la ligne d'arrivée. C'est dommage, François, vous aviez presque réussi.
Oh. Incident diplomatique.
Exactement.
Non, vous revendiquez le beurre, évidemment, vous êtes breton.
Comme on dit, hein, le gras, c'est la vie, c'est pas Caradoc, c'est ma grand-mère qui l'a inventé, celle-là, hein, pour ceux qui ont la référence.
Et je précise que c'est un dessert qu'on peut goûter parmi tant d'autres dans votre restaurant Utopia et que vos deux recettes, ça peut être de très bonnes idées pour les fêtes d'ailleurs, en salé et en sucré, vos deux bouchées. Eh bien, les recettes sont en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster. Il est temps de se quitter, malheureusement. Merci à vous, cher public,
pour votre accueil chaleureux. Merci à la ville de Poitiers. Merci à l'Office du tourisme. Merci au TAP, scène nationale du Grand Poitiers. Merci à Raja Boutni et à toutes les équipes de France Inter pour nous avoir permis cette émission en public. La semaine prochaine, retour dans nos studios pour une autre émission en public. Une sacrée leçon de pâtisserie autour des gâteaux de fête avec Philippe Conticini. Et d'ici là, avis aux Toulousains, je serai en dédicace de nos livres coédités par les éditions de Radio France. On va déguster mon livre de recettes à Toulouse ce mardi 16 décembre à 18h à la librairie Ombre Blanche. Et avis aux Parisiens, le mercredi 17 décembre, je serai à la librairie de Paris, place de Clichy, à partir de 18h. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.